le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Cinq mille ménages wallons pourraient bénéficier d'une allocation pour payer leur loyer, mais pour raisons administratives, ils ne la reçoivent pas. On vous explique dans un instant. Mais d'abord, direction Moscou, on a appelé notre correspondant en Russie à quelques jours des élections présidentielles. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ce week-end, les Russes votent pour élire un nouveau président qui n'aura évidemment rien de nouveau. L'issue de cette élection ne laisse aucun doute. Vladimir Poutine sera réélu pour un cinquième mandat présidentiel. Fin février, dans son discours à la Nation, il n'avait même pas pris la peine de mentionner le scrutin tant son issue est jouée d'avance. Alors pourquoi tenir ce simulacre d'élection? Quels en sont les vrais enjeux? Quel est l'impact de l'offensive en Ukraine sur la cote de popularité de Vladimir Poutine et sur l'économie russe? Julien Cambier a posé ces questions et d'autres à Benjamin Quenel, notre correspondant en Russie.
Bonjour Benjamin.
Bonjour.
L'issue de ce scrutin n'a un secret pour personne. Quels sont les vrais enjeux de cette élection?
C'est un vrai référendum pour Poutine, un référendum pour sa personne, pour sa présidence. Et c'est important de savoir s'il aura plus ou moins que les 77% qu'il avait eu en 2018. Et c'est aussi un référendum sur la suite de sa stratégie politique, en particulier la suite de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Un oui massif sera un double oui, oui à encore 6 ans de Poutine et encore quelques mois, quelques années de conflit en Ukraine et avec l'Ouest. Ce qui est important cependant de voir, c'est pas simplement ne pas s'arrêter simplement au pourcentage, parce que a priori, il pourrait avoir jusqu'à 80% des voix, mais bien de regarder dimanche soir et lundi matin, quand on aura les résultats, le nombre de votes qu'il aura obtenu. Parce que est-ce qu'il aura vraiment obtenu plus que lors de la présidentielle de 2018 et du référendum sur le changement de la Constitution en 2020?
Et bien qu'il soit le vainqueur annoncé, Poutine ne pouvait pas être le seul candidat. Il lui faut aussi des adversaires. Qui sont-ils et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une opposition?
Alors, contrairement aux années précédentes, aux élections précédentes, il n'y a que 4 candidats. En 2003, il y en avait, en 2000, pour sa première élection, il en avait presque une dizaine, dont des candidats plus ou moins indépendants. Il y avait vraiment un vrai débat. Là, il y a Poutine et simplement les candidats représentant les partis autorisé à la Douma. Un certain Vladislav Davenkov, qui est le représentant de Novyi Ludi, un parti qui se veut libéral. Novyi Ludi, c'est les nouvelles gens, donc c'est beaucoup de jeunes, des trentenaires dans l'informatique, la classe moyenne active, mais qui est en fait un parti noyauté orchestré par le Kremlin. Deuxième candidat, Leonid Slutsky, qui est davantage connu du grand public parce que c'est un tribun, c'est une bonne gueule qui fait beaucoup des discours très nationalistes et c'est le représentant du parti nationaliste LDPR. Et une vieille figure du parti communiste, du KPRF, un certain Nikolai Kharitonov, qui n'est pas très connu du public. Et donc voilà, 3 hommes, pas de femmes, alors que dans toutes les présidentielles précédentes, il y avait toujours une femme. Là, il n'y a que 3 hommes. Qui ne sont pas des personnalités politiques d'envergure, qui sont un peu comme leurs 3 partis à la Douma, l'Assemblée de la Chambre basse du Parlement russe, qui est depuis longtemps une simple assemblée d'enregistrement des décisions du régime. Ils sont loyaux au Kremlin, ils font partie du spectacle, ils font partie de la mise en scène de cette démocratie de façade, mais au bout du compte, ils votent toujours pour le Kremlin. Et ils soutiennent, bien sûr, l'opération militaire spéciale en Ukraine.
Est-ce que finalement, la mort de Navalny n'est pas le fait le plus marquant de cette élection, lui qui était la figure de proue de l'opposition au gouvernement Poutine?
Alors, il n'y a pas eu d'intrigue dans cette élection, puisqu'il n'y a pas vraiment d'élection, il n'y a pas vraiment de candidat, il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas vraiment d'intrigue. On peut en nul cas comparer à une élection dans une démocratie où il y a un vrai suspense. Là, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enjeu et il ne se passe rien. Donc, quoi qu'il se passe, devient un événement. Il y a d'abord eu les surprenantes files d'attente pour apporter des signatures aux candidats d'opposition Boris Nadejdine, ça a marqué la petite communauté libérale. Et puis, bien sûr, il y a le décès, la mort mystérieuse d'Alexei Navalny dans sa prison, qui du coup, depuis le 16 février, est devenu vraiment le fait marquant de cette campagne, puisque on ne parle dans les étroits cercles d'opposition que de ça, et pas de la présidentielle. Et c'est donc c'est un peu un contre-narratif au narratif officiel de l'élection plébiscite de Poutine. Surtout que la veuve d'Alexei Navalny, Yulia, prend le relais, et pour cette élection, elle et les équipes de Navalny, qui sont hors du pays, invitent les électeurs à une forme de vote protestation. Vous allez voter, puisque tous partent du principe qu'il faut de toute façon voter, mais voter contre Poutine pour diminuer le maximum le pourcentage du président, mais voter tous ensemble pour former une sorte de protestation de groupe, un effet de masse dans les bureaux de vote. Allez voter dimanche à midi. C'est ce qu'ils appellent le midi, dimanche midi contre Poutine.
Que reste-t-il de cette opposition après la mort de Navalny ?
Alors l'opposition, elle est comme avant la mort de Navalny, elle est éclatée, elle est divisée, beaucoup sont partis du pays et du coup il n'y a pas vraiment de relais sur le terrain. Il ne faut pas oublier que Navalny, c'était dans les belles années, avait réussi à organiser un réseau de QG en région, dans les grandes villes, les petites villes, et dans chacun de ces QG, il y avait une petite organisation qui relayait ces messages et qui relayait ces initiatives. Tout ça a disparu. Beaucoup de ces gens sont partis ou sont restés et sont en prison ou décident de faire de l'opposition, mais la plus discrète possible, puisque avec toutes les lois répressives qui sont en place depuis 2 ans, le moindre forward sur Internet, sur les réseaux sociaux contre l'opération militaire spéciale peut être poursuivi en justice. Donc, on a vu lors des files d'attente pour Nadejdine, puis lors de cette longue queue pour aller au cimetière de Navalny, des gens qui étaient prêts à se rassembler pour des actes légaux, aller apporter sa signature, aller poser des fleurs sur une tombe, pour exprimer leur opposition, mais c'était des actes de résistance plus que des actes vraiment de manifestation, puisque aucune manifestation publique n'est autorisée.
Quelle est l'ambiance en Russie à quelques jours de l'élection ?
Alors vous seriez surpris, à Moscou, où il fait toujours un hiver froid mais très ensoleillé, l'ambiance est plutôt bonne. En apparence, il y a peu d'affiches électorales, pas de photos de Poutine, quelques photos pour le candidat de Novy Iludiv, quelques photos pour le candidat du nationaliste, beaucoup d'affiches un peu partout appelant les gens à aller voter, rappelant que ce vote est important pour la Russie, rappelant que vous pouvez voter électroniquement, précisant où vous pouvez aller voter dans votre quartier, précisant que vous pouvez aller voter sur 3 jours, du vendredi matin à dimanche soir. Ça, c'est un héritage des précautions des années Covid. Donc, beaucoup d'appels à voter, mais on ne sent pas vraiment d'ambiance électorale avec des débats, avec des affiches, comme dans une démocratie normale.
Et quel est l'impact de l'offensive en Ukraine sur la cote de popularité de Vladimir Poutine ?
Ça, c'est la grande question, puisque la réponse est qu'on ne sait pas. On ne peut pas officiellement se dire publiquement contre le SVO. En russe, c'est SVO, l'opération militaire spéciale, puisque ça peut être passible de poursuites judiciaires. Donc, on ne peut pas mesurer cette opposition. Quand on parle aux sociologues, ils sont à la tête de l'EVADA, le centre indépendant de sondage, et avec certains des politologues un peu critiques qui sont toujours restés à Moscou, ils estiment, comme c'était le cas avant le début du conflit, à 15-20% de gens qui sont très pour Poutine jusqu'à fond, qui répètent le message patriotique et compagnie, 15-20% des gens qui sont contre le Kremlin de Vladimir Poutine, donc contre la répression, contre ses politiques, contre son isolation vis-à-vis de l'Ouest et contre l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et le reste, donc un gros 60% qui est au milieu, qui est assez passif, apathique et conformiste et qui du coup, de fait, soutient le système parce qu'il n'a pas vraiment d'autre choix. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact, on ne sait pas l'impact du conflit sur le vote, puisque sur la campagne électorale, parce que ce n'est pas un sujet de la campagne électorale, ce n'est pas un sujet sur le vote, puisqu'il n'y a aucun des quatre candidats n'est contre la poursuite de l'opération militaire spéciale. Nadiejdine, qui était d'une manière très prudente contre, en disant qu'il était pour la paix et pour le cessez-le-feu et pour le début d'une négociation, n'a pas été autorisé à se présenter. Donc on n'a aucun moyen de mesurer mathématiquement et de manière très précise quel est le pourcentage de gens qui sont contre la poursuite de l'opération spéciale.
Mais vous qui êtes en Russie, qui êtes au contact des gens, j'imagine, comment vous le percevez ?
Beaucoup de gens sur le conflit ?
Oui.
Beaucoup de gens. Alors, il y a Moscou et Moscou, les grandes villes et le reste de la Russie. Mais beaucoup de gens sont contre, beaucoup de gens sont inquiets, beaucoup de gens vivent dans des schizophrénies au quotidien. En ayant deux vies, au fond d'eux, ils sont contre cette politique, ils sont contre le Kremlin, ils sont contre ce conflit, mais ils doivent continuer à vivre, voire exprimer leur soutien à ce système. Et donc, il y a beaucoup d'opposition cachée et refoulée.
Après 2 ans de guerre et de sanctions occidentales, comment se porte l'économie russe ?
Alors là, c'est quand même la grande surprise aux yeux de ceux qui pensaient que les sanctions allaient affaiblir l'économie russe. 2 ans après, la Russie, qui est le pays le plus sanctionné au monde, devant l'Iran ou devant la Corée du Nord, a enregistré en 2023 une croissance de plus de 3%. La production industrielle augmente chaque mois entre 3 et 6, 7%. L'inflation a certes augmenté, mais elle reste à un niveau raisonnable en dessous de 7, 8%. Le chômage est à 3%, un niveau qui n'a jamais été aussi bas. Donc, l'économie russe montre sa résilience et même à des nouvelles poches de production industrielle, puisque, il faut remplacer les productions des entreprises européennes et américaines qui sont parties, et 2, et c'est le plus important, il faut alimenter la bête militaire, le complexe militaro-industriel, qui est devenu le vrai nouveau moteur de l'économie russe. S'il y a eu une forte croissance l'année dernière, si la croissance, qui sera sans doute un peu plus faible cette année, restera au-dessus des 2%, c'est parce que le complexe militaro-industriel fonctionne à plein, embauche, augmente les salaires parce que c'est difficile de trouver les recrues. Et ce n'est pas simplement les usines de munitions ou d'armement, c'est tout ce qu'il y a aussi en amont, beaucoup d'entreprises, d'usines qui avant produisaient des produits, des choses civiles, pour le civil, sont maintenant, reçoivent des oukases pour fournir des produits aussi à la chaîne militaire. Donc, il y a un vrai effort de guerre industrielle qui fait que l'économie russe est en croissance.
À l'aube de son 5e mandat présidentiel, Vladimir Poutine semble concentrer tous les pouvoirs. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il doit rendre des comptes à certaines personnes ? Comment s'organise maintenant le pouvoir russe ?
Lui ne doit pas rendre de compte puisqu'il est au sommet de l'État et au sommet de l'armée. Mais l'image que Poutine est au sommet d'une verticale et qui décide de tout n'est pas réaliste. Un président ne peut pas tout décider, quel que soit le pays. Et dans un pays aussi grand, aussi large, aussi étalé sur 11 fuseaux horaires qu'est la Russie, c'est impossible. Donc, les grandes décisions sont prises par Poutine, par l'administration présidentielle, par tous les groupes de Siloviki, ses agents, ses forces, ses représentants des forces de sécurité, FSB, armée, police, comité d'enquête en tête, qui, depuis plusieurs années, ont pris le pouvoir à la fois économique et politique. Et ensuite, tous ces centres de décision délèguent aux régions, au gouvernement, au ministère, aux administrations, mais pas dans un climat qui, dans une démocratie, entretient le dialogue, l'interactivité, une vraie chaîne de décision où on peut remettre en cause certains éléments et en cas de désaccord, on peut discuter et en cas de conflit, on peut aller devant une cour de justice. Il n'y a pas ce système en Russie. On comprend le message qui vient d'en haut et ensuite, il faut l'appliquer. Poutine ne peut pas décider de tout, mais son système a créé un système où les décisions doivent au final le satisfaire. Donc ça crée une sorte de climat de peur et de dépendance qui fait que ça donne l'impression que tout est décidé par le sommet.
Merci Benjamin.
Merci Julien.
L'allocation loyer fête son premier anniversaire. Il s'agit d'une aide versée mensuellement aux personnes à faible revenu et en attente d'un logement social en Wallonie. Ils sont 3400 à en bénéficier au sud du pays, mais ils pourraient être beaucoup plus. Plus d'explications avec Amandine Claute, chef adjointe du pôle économie. Bonjour Amandine.
Bonjour Pierre.
C'est quoi alors cette allocation loyer? En quoi elle consiste et surtout c'est quoi l'objectif?
Alors l'intitulé exact c'est l'allocation d'attente au logement. Et donc l'idée de cette mesure, c'est d'aider les ménages qui sont coincés sur le marché privé, mais candidats à un logement public. Et comme vous le savez peut-être, il y a à peu près 40 000 personnes, et la liste, il y a un turnover, la liste est renouvelée, mais en général, il y a 40 000 personnes qui attendent en Wallonie pour un logement social. Et on sait que voilà, l'offre ne rencontrera jamais totalement la demande. Donc cette mesure, c'est une aide financière directe qui est versée à des ménages particulièrement fragiles parce que leurs revenus sont très peu élevés. Il y a des seuils qui sont établis par l'arrêté qui fixe la mesure et donc qui leur permet tout simplement de tenir un peu plus le coup sur le marché locatif privé.
On peut se demander qui est concerné, qui peut en bénéficier. Vous avez parlé de ménages avec des très faibles revenus. Il y a d'autres caractéristiques qu'il faut remplir?
Alors, donc il y a plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est les revenus. Il faut être de catégorie 1. Donc, c'est des revenus, par exemple, pour un isolé inférieur à 17 000 euros. Donc, c'est assez bas. Il faut être inscrit sur une liste d'attente pour un logement social. Cette inscription, elle peut se faire auprès de 62 CISP, des sociétés de services publics immobilières, donc qui gèrent le parc immobilier social au niveau local. Et il faut être inscrit depuis 18 mois. À partir du moment où on rencontre toutes ces conditions, on a droit à cette aide financière qui est versée mensuellement, qui commence à 125 euros, qui est majorée en fonction des personnes à charge en situation de handicap ou des enfants à charge tout simplement, et qui peut aller jusqu'à 185 euros maximum par mois.
Dans l'article que vous publiez ce vendredi, vous dites qu'il y a plus de 5000 ménages en Wallonie qui pourraient en bénéficier de cette allocation et qui aujourd'hui n'en bénéficient pas. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'ils n'en bénéficient pas aujourd'hui?
Alors on parle de public fragile, donc c'est toujours assez difficile de capter ces publics. Et donc en Wallonie, quand on a mis en place la mesure il y a un an, on a vraiment essayé d'automatiser le procédé un maximum. Et donc on s'est dit, puisque le candidat à un logement social doit revenir chaque année renouveler son dossier, on en profite pour lui faire remplir le formulaire et la CISP, donc la société qui gère le parc immobilier social, elle va déjà devoir collecter un certain nombre d'informations privées, comme les revenus par exemple, pour l'intégrer à cette liste ou le conserver sur cette liste d'attente pour un logement social. Donc c'était une manière aussi pour le potentiel bénéficiaire de ne pas devoir faire démarche volontaire, pas de paperasse, pas...
C'est ça, un peu alléger l'administratif.
Malgré cette volonté, ça bloque quand même en réalité. Pourquoi? Parce que la CISP ne peut pas collecter le bail privé, parce qu'elle n'en a pas besoin, et ne peut pas collecter les coordonnées bancaires pour un candidat sur une liste d'attente. Donc l'administration doit quand même, quand elle voit que le ménage arrive à 18 mois d'attente, elle doit quand même le contacter par courrier. Mmh. Et comme dit, la population est fragile, etc. Donc tout simplement, parfois, elle ne répond pas au courrier ou elle n'ouvre même pas le courrier.
Ces 5000 ménages de plus, c'est des gens qui ont reçu un courrier, qui pourraient en bénéficier et qui n'ont pas répondu à ce courrier?
Alors actuellement, on a environ 3500 bénéficiaires de la mesure, donc qui est jeune, hein, qui a un an. On avait, l'administration avait identifié environ 12 000 ménages potentiels bénéficiaires. Il y en a 22% qui ont été recalés pour X raisons, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait éligibles, parce qu'ils avaient sauté de catégorie de revenus, etc. Et puis, il y en a 45%, soit 5 300 ménages, qui sont en fait dans la dernière phase. Ils doivent juste activer, ouvrir ce courrier, envoyer leur bail, et ils bénéficieront de cette aide. Malheureusement, ben voilà, les dossiers sont bloqués.
Est-ce que il n'y a pas un risque d'effet pervers que cette allocation, elle finisse en fait par gonfler les poches des propriétaires privés qui profiteraient du principe?
Alors c'est une crainte de la société civile, de plusieurs associations. En France, il y a beaucoup d'aides aux loyers qui cohabitent depuis longtemps. Et donc effectivement, il a été mesuré que cette aide financière directe, elle a été absorbée par le marché privé. Ce que répond le ministre en charge du logement au sud du pays, Christophe Collignon, c'est mais enfin, on parle de 10 000 environ allocataires potentiels. Ça va pas. Enfin, le marché privé a pas attendu cette aide pour augmenter ses prix. Donc lui, il balait cet effet-là de facto.
Là, on vient de parler de la Wallonie. À Bruxelles, il y a une mesure similaire qui existe?
Oui, tout à fait. Il y a donc également une allocation loyer pour les candidats à un logement social. Elle existe depuis 2021. Avant 2021, il y avait plusieurs allocations loyers qui cohabitaient, mais pour tout vous dire, il y avait 400 ménages qui en bénéficiaient. Aujourd'hui, à Bruxelles, on a 10 500 ménages qui bénéficient de cette allocation. Les modalités d'octroi sont un peu différentes. Ils dépendent du nombre de points de priorité selon le statut du ménage inscrit sur la liste et également d'un seuil de revenu qui diffère. Les montants sont également parfois un peu plus importants. Le montant varie de 120 à 173 euros et il est majoré de 20 à 43 euros par enfant à charge. La mesure a touché jusqu'à 12 000 ménages en même temps. Mais du côté du cabinet de la ministre Nawal Benhamou, qui est donc la ministre en charge du logement à Bruxelles, on a rencontré en fait les mêmes difficultés qu'en Wallonie, même si on n'a pas mis en place le même dispositif pour toucher les gens, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'informer via les CPAS, via les AIS, via un maximum de choses. Mais c'est un public qui reste difficile à toucher. Donc eux, ils ont pour objectif d'arriver à 12 500 bénéficiaires en rythme de croisière, puisqu'il faut savoir qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent du système tous les jours.
Merci Amandine.
De rien, Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À lundi.